pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, une émission de déconfinement par les livres, une émission ouverte comme la radio. Tous les invités se sont connectés au studio grâce à une application et ou leur téléphone, libraire et chroniqueur compris, et Boris Paczynski est là derrière la console pour rassembler tout ça. Merci à lui. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. Aujourd'hui, je vous ai choisi La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est fini. Voilà, c'était ça la première phrase. C'est un peu court, donc je vous fais la deuxième. Mais commencer par « c'est fini » déjà, c'est pas mal, je reprends. C'est fini. La plage de Big Sur est vide et je demeure couché sur le sable à l'endroit même où je suis tombé. La promesse de l'aube, donc le roman autobiographique de Romain Gary, publié en 1960, ça n'a pas pris une ride. Tout à l'heure, les libraires de l'émission, tout aussi jeunes et vifs, nous rejoindront avant de commencer une rude semaine, et puis nous visiterons la bibliothèque poétique et musicale, forcément, d'MC Solar. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité, invité prestigieux cette semaine. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Il se fait plutôt discret médiatiquement, mais c'est l'un des meilleurs écrivains français. On le connaît pour Saga, notamment, l'histoire de scénariste chargé d'écrire un sitcom, ou Malavita, adapté au cinéma avec Robert De Niro en personne. Il écrit d'ailleurs des scénarios, De battre mon cœur s'est arrêté, par exemple, il l'a co-signé. Il a co-écrit aussi un Lucky Luke avec Daniel Pénac, beaucoup de nouvelles, je vous fais pas tout le CV, mais sachez qu'il revient avec un nouveau grand roman intitulé Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une. Bonjour Tonino Benacquista.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir dans La Voix est libre. Un mot d'abord quand même sur cette étrange période que l'on vit. Où est-ce que vous êtes? Comment allez-vous?
Je suis à Paris, je suis chez moi. Ça va à peu près. Moi, il se trouve que je travaille chez moi depuis 30 ans, donc... d'une certaine manière, j'ai fait en sorte de ne pas trop varier de ma routine. À peu près les mêmes horaires et à peu près les mêmes habitudes, quoi. Donc rien de très particulier. D'une certaine manière, j'étais un peu moins pénalisé que beaucoup d'autres, quoi.
Vous avez une routine d'écriture, mais d'habitude, le contexte extérieur n'est pas le même. Est-ce que cette ambiance vous bloque un peu dans le processus d'écriture, ou vous arrivez quand même à écrire vos romans?
Non, mais j'ai travaillé à mon manuscrit comme d'habitude. Il se trouve que l'après-midi, bizarrement, j'ai beaucoup plus lu. Alors là, c'est là où je me suis aperçu que, j'ai eu une espèce de boulimie de lecture que je n'ai pas eue depuis longtemps.
Ah.
Bon, enfin, il n'empêche que, effectivement, ça... C'est l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, comme disait je ne sais plus qui.
Woody Allen.
Et oui, voilà.
Et vous n'êtes pas le premier écrivain à nous dire ça. Qu'est-ce que vous avez redécouvert comme lecture ou découvert, tout simplement?
C'est-à-dire que j'ai commencé par lire utile, comme je fais toujours, parce que je lis essentiellement utile. Je lis assez peu plaisir.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que je lis tous les trucs dont j'ai besoin pour ce que je suis en train de faire. Et là, en fait, non, j'ai lu plaisir. Et c'est une énorme différence pour moi. C'est-à-dire, voilà, j'avais jamais lu les caractères de La Bruyère. Je me suis dit, c'est le moment. Et puis, j'ai relu des trucs que j'avais pas lus depuis très très longtemps. Les mots de Sartre, Une vie de Maupassant, du Balzac, des choses comme ça, quoi. Voilà, j'ai redécouvert le plaisir de la lecture, en fait.
C'est déjà une très belle chose. Venons-en au fait. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, virgule, sauf une. Magnifique titre, qui m'a fait penser d'ailleurs au titre d'un autre écrivain, Thomas Gunzig, un livre qui s'appelle « Encore une histoire d'amour ». Et vos deux titres ont l'air de dire qu'on commence à épuiser le sujet. Est-ce que c'est le cas? Toutes les histoires d'amour ont plus ou moins déjà été racontées, ou on peut dire « sauf une » à chaque fois qu'on se lance, finalement?
Non, mais celle-là, celle que je propose, est véritablement originale. Non, je plaisante. Mais oui, on a toujours l'impression qu'on écrit une histoire absolument inédite, ce qui n'est jamais ça. Mais d'une certaine manière, avec ce titre-là, j'avais envie de dire, Parce qu'on a, on dit toujours que voilà, toutes les histoires ont été racontées et que désormais, on ne pourra plus surprendre par la fiction, par la narration, mais uniquement une histoire va se justifier par le style qu'on va employer, par sa manière de la raconter. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est un peu ce qui est à l'œuvre dans ce bouquin. Je pense qu'il y a, encore des situations qui peuvent nous surprendre, nous déconcerter et puis nous questionner. Et je crois toujours autant à la fiction. Et ce titre dit un peu ça. Voilà, c'est une profession de foi, c'est une déclaration à la fiction en fait.
Oui, oui, c'est même un espoir d'une certaine manière. La fiction est toujours bien vivante et elle nous réserve encore des surprises. Là, c'est donc l'histoire de Léo, un type tranquille au début du roman, un type qu'on envie presque à cause de son insouciance. Il travaille pour la SNCF, son métier c'est de déambuler dans les trains pour faire remplir les questionnaires aux voyageurs. Il habite un petit studio tout seul et comme il a du temps, bah, il fait aussi de la photo dans les rues de Paris, sans aucune ambition d'ailleurs, même s'il a beaucoup de talent. C'est ça le charme de ce personnage, c'est le rêve ultime de la flânerie permanente.
Oui, lui il est très... Il est assez maître de son temps, c'est un insouciant. Enfin, c'est-à-dire qu'il fallait, il me fallait un insouciant qui est en plus quelqu'un qui a un regard et qui aime bien s'étonner des petites choses quotidiennes. Il me fallait ce personnage, a priori tranquille, pour le faire basculer dans quelque chose de beaucoup plus grave. Et donc voilà, il va tout simplement, il va vivre, il va subir un accident qu'il ne s'explique pas, qu'on ne lui explique pas. Il y a quelque chose qui... Il avait tout et il n'a plus rien du jour au lendemain. Et l'idée, c'est que cette injustice qu'il ressent profondément, il ne trouve aucune explication à ça. Et ni le discours, ni ses amis, ni le réconfort des amis, ni la médecine, ni rien, ni aucune thérapie n'arrive à répondre à ces questions. Mais il a trouvé un stratagème, voilà. Il va passer de l'autre côté du miroir, voilà.
Mais c'est vrai que c'est étrange de lire ce livre en ce moment, parce que bon, on a un peu tendance en ce moment à tout regarder par le prisme du confinement. Parfois, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais là, quand même, faut bien admettre que l'histoire de Léo résonne avec cette période un peu étrange qu'on vit. C'est l'histoire d'un confiné, finalement.
Oui, enfin, un confiné volontaire. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je le vois comme un ermitage, moi, comme une thébaïde. Je ferais tout pour éviter le mot confinement, mais effectivement, c'en est un. Et comment dire, c'est une traversée en solitaire. Et ça va, c'est une saison. Pour lui, c'est une saison. Moi, pour moi, le titre d'origine, vous parliez du titre tout à l'heure. Moi, mon titre de travail, je savais que je n'allais pas le garder, mais le titre de travail, c'était « En enfer, saison 1 ». Et c'était une référence à Rimbaud, à une saison en enfer. Mais en enfer, saison 1. C'est-à-dire, voilà, il.
Ça, c'était pas mal.
Et le terme saison, en ce qui concerne les séries, on a une saison, deux saisons. Attendez, à la troisième saison.
Et ben voilà, mais c'est aussi pour ça que je disais ça. Puisqu'il a décidé de se couper du monde et de se saouler de séries, on va y venir.
Oui.
Et il vient de regarder justement une série qui se passe en Italie à la Renaissance, et je lis un extrait. « Quelques plis ont été glissés sous la porte par la gardienne, mais il les y laisse. Le monde extérieur attendra, ainsi que les 100 000 conflits armés qui ont lieu à cet instant même. Invasion militaire, affrontement terrestre, frappe stratégique, guérilla urbaine, attaque chimique, révolution et émeute. La seule guerre dont il veut connaître l'issue est celle que se livre au XVIe siècle. Deux illuminés qui, en servant Dieu, l'ont défié par l'arrogance et la démesure de leur talent. » C'est vrai que quand on lit ça quand même en ce moment... Tout se passe à l'extérieur pendant qu'on reste chez soi. C'est quand même un côté vertigineux là-dedans.
Oui, là en l'occurrence, c'est une série qui s'appelle Renaissance. Enfin, moi je précise que toutes les séries de ce roman sont entièrement créées, ouais. Elles n'existent pas. Mais là, c'est une série qui s'appelle Renaissance. Et d'une certaine manière, il en apprend beaucoup plus sur le monde qui l'entoure en regardant cette série sur l'affrontement entre Michel-Ange et Léonard. Il ouvrait un journal pour se tenir au courant de l'actu. Voilà, c'est un peu sa démarche à lui, quoi. Voilà, il essaie de comprendre le monde à travers la fiction et les situations qu'elle propose, plutôt que de se fier à ce qu'il entend. Il a perdu confiance dans l'info, dans le discours, dans la frénésie de ce monde, et il se réfugie dans un autre. voilà, où il a le temps.
Oui, parce qu'il passe son temps, sa vie à regarder des fictions, c'est une reconstruction. On pourrait penser à une critique de l'addiction aux séries, une autodestruction même, mais en fait non, pas du tout, c'est une renaissance. Il ne regarde pas passivement, il se regarde lui en regardant les fictions finalement.
Pour moi c'est ça, c'est-à-dire que ce personnage-là est en investigation permanente. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout, je ne sais pas quoi, enfin, des vies par procuration, de l'oubli, du... Non, c'est du travail. Et c'est aussi ce que je voulais faire avec ce bouquin. C'est-à-dire que, voilà, moi, pour la faire courte, il y a 20 ans, j'ai écrit un bouquin que vous citiez tout à l'heure, qui est Saga, et qui racontait voilà, une fiction à travers ceux qui la fabriquent. Mais là, 20 ans plus tard, j'avais envie de me mettre dans la peau du spectateur.
On va y venir, parce que Saga, il est dans ce nouveau roman aussi. Restez avec nous, on se reconfine dans un instant avec Léo et les séries télé, et Saga, et l'histoire d'amour encore jamais racontée. A tout de suite.
A tout de suite.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre avec Tonino Benacquista qui signe son nouveau roman chez Gallimard, bien sûr, au titre sublime. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une, l'histoire de Léo, un photographe tranquille, plutôt heureux, qui un jour préfère quitter ce monde, le monde, pour s'enfermer et se gaver de séries. Il se confine pour un événement particulier qu'on ne dévoilera pas ici, mais donc il décide de passer son temps à se saouler de fiction. On les regarde avec lui, on apprend un peu plus sur Léo au fur et à mesure, mais le récit est entrecoupé de l'histoire de ces séries qu'il regarde, des séries que vous avez inventées, Tonino Benacquista. Ce faisant, donc, vous écrivez, vous inventez des synopsis qu'on a vraiment envie de voir. Ce sont des idées que vous aviez en réserve, comme ça, ou vous les avez créées sur l'instant en écrivant le roman?
Un peu des deux. Il y avait quelques vieux fantasmes de séries et en même temps, il y avait celles que j'ai dû créer pour le roman, c'est-à-dire celles qui me servent d'outils et qui me servent à avancer dans la psyché du personnage. Mais c'est vrai qu'il y en avait aussi, bon, je me suis dit, c'est-à-dire c'est un peu, je pense que la plupart des séries qui sont dans ce roman, ça c'est la force du roman, c'est-à-dire que je peux proposer ces séries-là. Il n'est pas sûr du tout que je puisse cogner à la porte d'un producteur pour lui dire ben voilà, il faudrait peut-être raconter cette histoire-là ou cette histoire-là. Je pense que là, on me rirait au nez ou on fermerait la porte au nez. En l'occurrence, là, dans le roman, j'ai tout le temps de les proposer, de les fignoler, de les travailler. Et ça, c'est la force du roman. Voilà, ça, c'est la force du roman. Et voilà, mais sinon, oui, je les ai toutes créées et il y en a quelques-unes qui font écho au drame personnel de ce spectateur qu'est Léo, et puis d'autres voilà, qui étaient vraiment des envies, des vieilles envies moi que j'avais de raconter tel ou tel type de personnage, voilà, telle histoire, voilà.
Mais ça demande un sacré dosage, parce que nous, on suit les séries que vous inventez en lisant le roman, et il y a des séries fabuleuses qu'on a vraiment envie de voir. Il y en a une en particulier qui s'appelle Homeless Rich, qui est l'histoire d'un grand loup de Wall Street très 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 riche, un maître de l'univers comme ça, qui tous les week-ends se transforme en vagabond, en clochard, et il passe son week-end dans la rue, et on ne sait pas pourquoi. Et alors, donc, parfois, on s'attache donc à cette série-là, à ces personnages. C'était compliqué de se dire, bon, là, il faut que j'arrête l'histoire de la série, je reprends la trame centrale, ou au contraire, là, il faut reprendre le fil de l'une des séries. Comment ? C'est un sacré dosage pour réussir ça, quand même.
Ça a été le travail le plus complexe, en fait. C'était pas tant de créer les séries, mais c'était de les organiser entre elles et de leur trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, je me méfie beaucoup de la péripétie en pagaille qui tombe, etc. Moi, ça m'ennuie quand il y a une espèce d'inflation, d'imagination, de rebondissement. Il y a quelque chose qui me... Ça, c'est pas possible. Il fallait que pour... que tout ait leur juste place, il fallait les équilibrer. Ce qui fait que, de temps en temps, voilà, il y a un épisode entier, ben, c'est jamais plus d'un feuillet hein, ou un paragraphe, mais de temps en temps, il y a juste en une ligne ce qui va se passer dans l'épisode, ou alors il va y avoir un bout de dialogue, ou il va y avoir... Mais ne surtout pas lasser le lecteur avec une overdose de fiction. Ça, c'était pas possible. Donc le grand travail, c'était le travail d'équilibre et d'économie. Du récit, des récits. voilà, entre eux.
Il y en a une qui a l'air formidable aussi, qui est résumée en 10 lignes, qui s'appelle Old Soul, donc la vieille âme.
Ah oui.
Je lis. Au début, le personnage principal est un scarabée qui, au temps des pharaons, s'introduit dans une pyramide. Ce qu'il y découvre de trésors de connaissances l'élève dans la hiérarchie du vivant, si bien qu'après sa mort, il se réincarne en colibri du Chili. Léo a été ce scarabée et ce colibri, mais aussi un rat dans un cirque romain, un saumon du Danube, un cobra royal, un bouvier australien et un orang-outan de Bornéo. Héritier de toutes ses intelligences, peut-être deviendra-t-il un humain en saison 2. Ça, on a envie de la voir, celle-là, quand même. Aussi.
Oui, mais il y a une saison 2, en plus. C'est-à-dire qu'il y a une saison 2, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi les humains, à partir de Néandertal jusqu'à aujourd'hui. Et bon, je me suis dit, voilà, ça pourrait être une série sur l'histoire de l'intelligence et comment elle évolue selon les espèces. Et il y a moyen de faire quelque chose de même assez drôle avec tout ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la légèreté et puis de l'aventure partout, quoi. Enfin, voilà. Là c'est l'aventure de l'évolution humaine, oui. Enfin, humaine, d'abord, l'aventure de l'intelligence, en tout cas.
Vous avez dit drôle, et c'est vrai qu'on s'amuse, et on sent surtout que vous vous amusez avec ces histoires dans l'histoire dans l'histoire. Et dans une des séries, enfin, c'est un seul exemple parmi tant d'autres, mais vous créez même des cocktails, le Cozy Corner. Qu'est-ce que vous avez imaginé mettre dedans, le Cozy Corner? J'adore ce nom de cocktail, quand même. Il n'existe pas, de toute façon, ça s'est révélé.
Non, il n'existe pas. Il n'existe pas, mais il a un pouvoir magique. Et ça, quand on lit le bouquin, on s'aperçoit qu'à un moment donné, effectivement, il a un pouvoir de révélation. Voilà, donc c'est une espèce de potion magique qui n'existe pas encore. J'ai quelques idées, mais je me dis, tiens, peut-être il faudra créer ce cocktail. Moi, je vous dis ça, c'est qu'on a créé un jour un cocktail qui s'appelle Saga, ça a été un honneur inouï. Et voilà, on peut. Il m'est arrivé de déguster un Saga, mais voilà, je me dis le Cozy Corner, mais en même temps, voilà, dans le roman, il est. On le voit au début et à la fin du roman et d'une certaine manière c'est une résolution d'un mystère, quoi, le Cozy Corner. Ouais.
Ben justement, tant qu'on est à s'amuser, Saga, donc c'est une vraie fausse série qui est sortie de votre imagination dans un de vos plus romans qui a le plus de succès et qui s'appelle Saga, la série. Donc, et elle se retrouve dans ce livre-là, c'est une des séries qui fait partie du panel de Léo.
Oui. Oui, j'étais obligé de citer un épisode de Saga, mais comment dire, c'est une vieillerie, c'est considéré, c'est vu comme une vieillerie, c'est-à-dire que rien ne marche dans ce truc. C'est une vieillerie comme à l'époque, tout ça était bricolé. Mais il y avait quelque chose de jubilatoire dans justement le manque de moyens et qui fait la part belle à l'imagination. C'est-à-dire que voilà, moins on a de moyens et plus on se racle le cortex pour essayer de fabriquer une histoire. Et là, effectivement, il y a une espèce de référence, quoi, 20 ans plus tard. Mais c'est affirmer l'idée que c'est. Ce roman-là est un symétrique de Saga. C'est pas du tout une suite, mais c'est une espèce de prolongement. Mais c'est vu à travers les yeux du spectateur et non plus à travers les yeux de celui qui fabrique la fiction, c'est-à-dire le scénariste. Voilà, c'était un peu le pendant, quoi.
Mais effectivement, ce nouveau roman, et c'est plutôt un compliment, ce nouveau roman n'aurait sans doute pas été possible dans les années 90, puisque on vit depuis 10-15 ans une sorte d'âge d'or des séries qui sont devenues des œuvres d'art.
Oui.
Il y a vraiment des fictions et des séries qui sont des œuvres d'art. Vous êtes d'accord avec ça? Vous observez ça? Vous êtes vous-même un bouffeur de séries?
Disons que il y en a à peu près, je pense, 10 par jour qui déboulent. Donc voilà, je ne suis pas à l'affût vraiment. Mmh. Mais c'est vrai que de temps en temps, du bouche à oreille, on me signale quelque chose, je vais jeter un œil. Mais je pense qu'en ce moment, en tout cas, c'est comme ça que la fiction évolue par la série. Elle n'évolue pas pour l'instant, en tout cas par le cinéma. Hollywood ne nous propose rien de très nouveau, au contraire. En revanche, la série, et avec ce luxe inouï qui est le temps, quoi, qui nous permet d'entrer en résonance avec un personnage, c'est-à-dire que voilà, on s'approprie un personnage et peut-être on va le voir évoluer pendant 3, 4, 5 ans. Et ça c'est exceptionnel. Et c'est un phénomène, effectivement. Bon, alors le feuilleton a existé il y a 100 ans, mais là, je trouve que l'inventivité qui est à l'œuvre dans les séries, et qui ne sont plus que des... Il n'y a pas que des objets purement récréatifs. Effectivement, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des objets quand même beaucoup plus complexes, beaucoup plus... et qui sont troublants, quoi. Qui sont... Voilà, il y en a qui me déconcertent vraiment. Je me dis, ouais, ils sont quand même allés chercher loin, loin. Quand même.
Deux séries majeures pour vous ?
Oh bah, il y a les classiques, hein. Enfin, moi, je... Les séries classiques maintenant qui sont vraiment ultra partagées, on peut appeler ça des classiques, les Sopranos, les Breaking Bad ou même Black Mirror maintenant. Mais il y a d'autres choses qui sont... moi je pense à une série qui s'appelle Il Miracolo, qui est une série italienne. C'est sur l'idée de foi. La foi, à un moment donné, s'impose parce qu'il y a un miracle qui est indiscutable. Et puis, bon, voilà, on est en train de se dire que Dieu existe peut-être, quoi. Là, et là, qu'est-ce qu'on fait avec cette certitude qui nous tomberait aujourd'hui dessus ? Là, cette certitude est là. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça donne cette série italienne, moi, qui m'a vraiment déconcerté quand je l'ai vue. Breaking Bad, par exemple, garde... Pour moi, c'est une histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde moderne qui est assez parfaitement écrite. Il y a quelque chose de, je sais pas, moi, très très enthousiasmant dans l'écriture et dans la facture aussi. C'est véritablement du cinéma. Et voilà, je pourrais en citer plein d'autres.
J'avais encore 1000 questions parce que c'est vraiment un roman à tiroir dont on peut tirer plein d'enseignements et notamment sur ce qu'est la réalité et ce qu'est la fiction. Je cite juste cette phrase pour conclure qui est dans le livre. Sans l'alchimie de la fiction, la réalité est soit anecdotique, soit invraisemblable. Merci beaucoup Tonino Benacquista d'être venu.
Merci à vous.
Et je rappelle le titre de votre livre. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une. Merci beaucoup. Dans un instant, on ouvre un roman culte. Cette semaine, nous écouterons les premières pages de Running Man de Stephen King. Attention, on va courir.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, il est l'heure d'écouter un livre. Cette semaine, j'ai choisi Running Man de Stephen King, enfin de Richard Bachman, son pseudonyme. Il a publié 5 romans sous ce nom, des romans un peu alternatifs, un peu différents de son univers habituel. Running Man a été adapté au cinéma avec Arnold Schwarzenegger dans les années 90. L'intrigue du roman est un petit peu différente. C'est l'histoire de Ben Richards. Nous sommes dans une société dystopique. Dans ce monde-là, la télévision est obligatoire. Et les programmes ressemblent à des jeux de gladiateurs, souvent cruels, qui jouent sur l'humiliation et la déshumanisation, toute ressemblance, etc. Ben Richards est pauvre, très pauvre, et il décide de participer à un jeu. Il n'a pas le choix, il a besoin d'argent pour acheter des médicaments pour sa petite fille. Le jeu s'appelle la Grande Traque. Il a le mérite d'être doté d'un très gros prix. L'inconvénient, c'est qu'il consiste à être traqué, comme son nom l'indique. Vous êtes la proie, vous êtes poursuivi par des professionnels, mais aussi par les téléspectateurs qui peuvent gagner quelques dollars. S'ils vous dénoncent, il faut tenir 30 jours sans se faire arrêter ou tuer. Ben Richards tente les qualifications malgré les milliers de candidats qui ont eux aussi désespérément besoin d'argent pour survivre. Dans cet extrait, Ben a donc été qualifié. Et voilà le prime time pour le lancement de la Grande Traque. Il regrette déjà, mais il n'a pas le choix.
Richards attendait en coulisses. Derrière lui se tenaient deux flics. Il entendit le public assemblé dans la salle du studio applaudir Bobby Thompson. Il s'aperçut qu'il avait le trac et se dit que c'était ridicule. Mais cela ne suffit pas à le chasser. Il était 18h01. Ce soir, notre premier concurrent est un homme fort rusé et malin, un habitant du quartier sud de votre propre ville, disait Thompson. Sur l'écran apparut un gros plan de Richards, dans ses vieux vêtements gris et usés, pris quelques jours auparavant par une caméra cachée. Sans doute dans la salle d'attente du 4e étage, à en juger par l'arrière-plan. La photo avait été retouchée. Les yeux étaient un peu plus cernés, le front un peu plus bas, la bouche un peu plus moqueuse. Juste ce qu'il fallait pour lui donner un aspect terrifiant. L'ange de la mort urbaine, brutal, pas réellement intelligent mais rusé comme certains animaux. Le croque-mitaine standard des petits bourgeois. Cet homme est Benjamin Richards, 28 ans. Regardez-le bien. Dans une demi-heure, il va être lâché dans la ville. Si vous le voyez, mais il faut le prouver, vous avez gagné $100. Si vous donnez un renseignement permettant de l'abattre, il y aura $1000 pour vous. L'esprit de Richards vagabondait. Il fut brutalement tiré de sa rêverie. Et voici la femme qui touchera la cagnotte si Richards est abattu. L'image de Thompson sur son estrade bleue, frappée de l'emblème des jeux, fit place à une photo de Sheila. Cette fois, les retoucheurs avaient eu la main lourde. Le visage doux et un peu triste, pas vraiment joli, avait été transformé en celui d'une souillon à la sensualité vulgaire. De grosses lèvres très rouges, des yeux qui semblaient briller d'avarice, un soupçon de double menton, une poitrine impudemment dévoilée. Salaud ! Rugit Richards en se précipitant vers la scène. Des bras musclés le retinrent. « Calme-toi, mon gars, c'est qu'une photo !» Un moment plus tard, il fut à moitié poussé, à moitié traîné vers la scène. La réaction du public fut instantanée. « Ordure, assassin ! À mort ! Tire ta sale gueule de là ! Dehors !» Bobby Thompson leva les mains en un geste d'apaisement. « Allons ! Mesdames et messieurs, allons ! Écoutons d'abord ce qu'il a à nous dire !» Peu à peu, le calme revint. Richards faisait face à la salle, la tête basse, les épaules rentrées, comme un taureau prêt à foncer. Il savait qu'il projetait exactement l'image de peur viscérale et de méfiance que les organisateurs désiraient. Mais c'était plus fort que lui. Il fixa Thompson d'un regard haineux. « Cette photo de ma femme, quelqu'un va le payer cher, » dit-il dans un murmure rauque. « Je lui ferai bouffer ses couilles. » « Parlez plus fort, monsieur Richards !» dit Thompson avec juste ce qu'il fallait de mépris dans la voix. « Personne ne vous fera de mal. Pas encore, du moins. » De nouveau, des cris hystériques fusèrent. Richards releva brusquement la tête. Les spectateurs se turent, comme s'il avait reçu une gifle en plein visage. Des femmes le regardaient avec une expression de terreur presque sexuelle. Des hommes le fixaient avec un rictus meurtrier. « Pourriture » cria-t-il. « Si vous tenez tant à voir le sang couler, qu'est-ce que vous attendez pour vous entretuer ?» Des rugissements couvrirent ces derniers mots. Quelques spectateurs, peut-être payés pour cela, essayèrent de monter sur la scène. Des policiers les retinrent. Richards leur faisait face, conscient d'avoir une expression à peine humaine. « Merci pour ces paroles de sagesse !» dit Thompson, qui ne déguisait plus son mépris. « Pourriez-vous dire à notre public et à tous les téléspectateurs combien de temps vous pensez tenir ?»« Je tiens à dire à tous ceux qui suivent cette émission que la photo de ma femme qui vous a été présentée était une grossière falsification. » Elle... Des hurlements haineux l'empêchèrent de poursuivre. La foule devenait incontrôlable. Thompson dut attendre plus d'une minute avant de pouvoir répéter sa question. « Combien de temps pensez-vous tenir, monsieur Richards ?» « Je compte aller jusqu'au bout des 30 jours, » dit Richards avec un calme glacial. « Je ne crois pas que vous ayez quelqu'un d'assez fort pour m'avoir. » Nouveau hurlement, poing brandi. Quelqu'un lança une tomate. Les bras levés, Bobby Thompson cria pour couvrir le tumulte. « Sur ces paroles de défi purement gratuites, monsieur Richards va nous quitter. Demain, à midi précis, la chasse commence. N'oubliez pas son visage. »
Voilà, Running Man, et maintenant la traque commence. On court pendant tout le roman, c'est addictif et brillant d'intelligence sur ce qu'il dit de nous-mêmes. Running Man de Stephen King, alias Richard Bachman. On se déconfine un peu dans un instant pour visiter la bibliothèque d'MC Solar au programme Poèmes et Chansons. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, on va prendre un peu l'air, tiens, avec une attestation, puisque nous avons visité cette bibliothèque avant le confinement, bien avant. Nous partons donc chez MC Solar.
Bonjour MC Solar.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. C'est bien parce que chez vous, c'est étonnant, mais on peut fumer. C'est rare maintenant les endroits clos où on peut fumer comme ça.
C'est important de fumer. On est enfermé, mais on a notre espace de liberté. C'est une des seules choses qui nous appartiennent. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le foyer. Il y a un lien avec le feu, donc on allume.
Mais on a l'impression de faire quelque chose d'interdit, maintenant, quand on fume dans un salon.
Ça dépend toujours de l'ordre. On peut prier et fumer. Non, c'est interdit. Par contre, on fume et on prie. Là, le prêtre, il est content. Ça dépend de l'ordre où on met les verbes.
Est-ce que c'est un péché de fumer maintenant, oui. Social. C'est un péché social de fumer maintenant.
Non, la France est toujours rebelle, je trouve. On serait en Californie dans un café ou dans un restaurant. Oui, parce qu'ils ont le culte du sport. Mais en France, il y a, comme on appelle ça, toujours quand même la baguette. Il reste la bière. Quelquefois, des gens prennent du picon. Et ils font pas trop attention à leur santé, à leur corps.
Vous croyez vraiment que le picon, ça existe encore ?
J'espère. En tout cas, je suis allé dans un magasin et j'ai vu un truc qui s'appelle du viandox.
Ah oui.
Et donc, ça m'a mis dans cette période pchit, picon, viandox, vache qui rit.
Bon, on est dans votre salon, donc. Et il y a une belle bibliothèque. Elle a l'air très bien rangée, très bien cadrée. Mais si on s'approche un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Il n'y a pas de classement particulier ici.
Il n'y a pas de classement, c'est un millefeuille.
Littéralement.
Ouais. On trouve des livres quelquefois. Alors ça peut être dans un aéroport, ça peut être et puis on les met quoi, les uns après les autres. Donc il y a de tout. Alors quelquefois j'ai des obsessions. Là par exemple il y a un gars qui s'appelle Martin Monestier.
Oui.
Et j'avais lu un de ses livres.
C'est des livres en grand format sur des curiosités diverses.
Ouais. Et j'avais lu l'histoire des saints, ou bien l'histoire des cannibales, je ne sais pas. Et puis après, j'allais tout le temps en acheter. Puis ensuite, je les perds. Mais après, j'ai le souvenir. Alors, je vais les récupérer. Là, ça va, ils sont d'un certain temps.
Ouais, vous avez aussi, deux fois, vous avez deux exemplaires.
C'est très important.
De l'histoire et bizarrerie sociale des excréments.
Oui, parce que je tente de les offrir quelquefois. quand il y a des livres que j'aime bien, un, je ne veux pas les perdre. Et deux, quand je trouve qu'ils sont bien. C'est pour les offrir quand quelqu'un ne croit pas. Alors, il nous a fait l'histoire des saints dans le monde, l'encyclopédie historique et bizarre, des origines, des gorges, mamelles, poitrines,
et autres tétons.
Et autres tétons. C'est-à-dire qu'il prend un sujet, il va le chercher depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, et ce sont des... Voilà, c'est un dictionnaire, une Bible, savoir de quelqu'un.
Et évidemment, illustré, hein, en grand format. Mais avec des illustrations un peu désuètes, en noir et blanc.
Mmh.
Des vieilles gravures.
1950.
Les saints des années 50.
Ouais. Le cannibalisme.
Les saints fermiers.
Alors les saints fermiers, qu'est-ce que c'est ?
Le docteur Borelli, au XVIIIe siècle, sommité médical de son époque, disait avoir connu une nourrice qui avait une si grande quantité de lait qu'elle allaitait deux enfants et en donnait encore assez à un apothicaire pour fabriquer du beurre. Tout est vrai en plus chez Monestier en général.
Oui, ça a l'air vrai. Hein.
Et cannibales, ça va être marrant ça aussi.
On apprend plein de choses sur les anthropophages. Il y a des scénarios de films.
Le cannibalisme involontaire. Mmh. Non, ça.
Bah, ça veut dire qu'un jour, tu croyais manger un cassoulet et puis la personne a mis... Mais il y a eu plein d'histoires comme ça en France. Hein.
En 1984, nous avons rencontré un fonctionnaire international attaché à un service de la communauté européenne de Bruxelles qui, pendant un séjour de 3 années au Zaïre, a régulièrement mangé de la viande humaine sans le savoir jusqu'au jour où son boucher a été arrêté pour assassinat multiple.
Voilà. Et je ne savais pas qu'il y avait aussi la même chose au Zaïre.
Et alors, juste à côté... Mais sans qu'il n'y ait aucun lien, vous avez deux beaux livres sur le cinéma, un sur les films des années 50 et un sur les films des années 80.
Mmh.
Pourquoi ces deux périodes qui vous intéressent particulièrement dans le cinéma ?
Toutes les périodes m'intéressent, mais quand j'achète ça, c'est pour nourrir mon savoir, nourrir ma créativité, retrouver des films, voir Raquel Welch, qui était la concurrente américaine des bimbos européennes, parce qu'on avait Claudia Cardinal, Bardot. Et là-bas, ils se sont dit, nous aussi, on a le droit de créer ces plantureuses.
Y a beaucoup de choses. Et il y a un livre que je retrouve souvent dans les bibliothèques. Et en général, on me dit, celui-ci, je n'ai pas réussi à le finir. C'est le livre impossible.
Ouais.
C'est Ulysse de James Joyce. Est-ce que vous avez essayé ?
Non.
C'est trop dur ?
Non. Pas commencé. Il est vieilli. J'ai dû l'acheter chez des bouquinistes à l'époque où j'étais germano-pratin. Et... pas commencer, ça va peut-être être ma mission.
Mais c'est le livre qu'il faut avoir pour le lire un jour, ou en tout cas se dire qu'on le lira un jour, quoi. Et ouais. Tant pis si on le lit jamais, au fond.
Je dis à la recherche du temps perdu aussi.
Ouais. Justement, juste devant Proust, il y a les victoires de musique.
Par contre, ça m'a inspiré quelque chose, ce Proust.
Ouais, c'est quoi ?
Si un jour je me lance dans cette chose, je vais raconter l'histoire d'une cuisinière à la campagne, et ça s'appellerait « À la recherche du pain perdu ».
Ouais, c'est bien.
Voilà.
Et juste devant Proust, il y a vos trophées, il y a les victoires de la musique. Je peux ou pas ?
Bien sûr, tu vas voir le poids. Celle-là, elle fait 1 kg. Oh. 1 kg 5 ou 1 kg.
Plus que ça.
Fais voir. Faut imagine. Oh là là, ouais, c'est 4-5 kg. Wow, 5 briques de lait, quoi.
C'est joli, c'est deux enceintes l'une face à l'autre avec une note de musique entre les deux.
Ouais, alors celle-là, c'est celle de 1994. Ouais. Artiste interprète masculin. Donc elle est très ancienne. Et c'était mon premier pas dans la musique, quoi. Et c'était un très très grand moment. Oui, ce sont deux vinyles, hein, des espèces de vinyles en bronze.
Vous vous en rappelez très bien, c'est dans votre mémoire ou c'est un moment un peu hors du temps qui est un peu flou du coup. Tellement
c'était dans ma mémoire, c'est-à-dire que je venais de Villeneuve-Saint-Georges, j'étais venu en train et en bus, je suis allé à cet endroit et puis à cet endroit-là j'ai pu voir des gens type Marc Lavoine ou Claude Nougaro, que des gens que je voyais à la télé, tu vois, et c'était...
Et qui vous disent bravo.
Bon, ils me disent pas bravo, mais juste les croiser dans les couloirs, c'est vraiment un truc totalement irréel. On se rend compte que les gens sont simples quand même.
Il y a beaucoup de choses très différentes. Là, sur l'architecture, il y a des romans.
Je veux savoir plein de choses.
Je cherche la poésie, en fait.
La poésie.
Vous voyez, avec plein de recueils de Rimbaud et tout ça.
Ah, ça, j'ai lu ça.
J'ai vu un Rimbaud tout à l'heure.
À l'époque
scolaire. Ah, bah voilà, une saison en enfer. Tiens, ouvrier, ça me fait penser aux ouvriers qui mangeaient des sandwichs à l'omelette.
Sandwich à l'omelette. Oh, cette chaude matinée de février. Le sud inopportun vient relever nos souvenirs d'indigents absurdes. Notre jeune misère. Enrica avait une jupe de coton à carreaux blancs et bruns qui a dû être portée au siècle dernier, un bonnet à ruban et un foulard de soie. C'était bien plus triste qu'un deuil. Nous faisions un tour dans la banlieue. Le temps était couvert et le vent du sud excitait toutes les vilaines odeurs des jardins ravagés et des prés desséchés. Trois petits points, ça continue.
Est-ce que tu as des poésies que tu connais par cœur ? Ou pas du tout, tu préfères les avoir dans des livres et les retourner ?
Alors c'est quelque chose qui est super important. Moi, je vois, je rencontre quelquefois des gens qui connaissent plein de poésies par cœur. Moi j'ai quelques poésies scolaires, mais il y en a une que j'aime beaucoup, que je retiens plus et qui est souvent la structure, bon c'est un peu classique, de beaucoup de mes anciens titres avant que j'évolue. C'était René Guy Cadou qui avait ce... Je me souviens du grand cheval qui promenait tête et crinière comme une grappe de lumière dans la nuit du pays natal. Qui me dira, mon chien inquiet, ses coups de patte dans la porte, lui qui prenait pour un gibier le tourbillon des feuilles mortes. Maintenant que j'habite en ville, sans paysage, sans jardin, je pense à ces anciens matins tout parfumés de marguerites. Eh bien, très, ça a influencé beaucoup de choses. Obsolète, les temps changent, carpe diem, une espèce de constat, de regret, de choses. C'est...
Bon, alors... Vous essayez pas de vous faire un catalogue mental de poésie par cœur, quoi. Il y en a quelques-unes que vous connaissez, mais vous ne vous forcez pas à les apprendre dès qu'elles vous plaisent.
Non, je ne me force pas, mais j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, avec l'évolution technologique, quand on aime quelque chose, on se l'enregistre, on se l'écoute, et comme une chanson de Caroline Loeb ou de Plastic Bertrand, ça y est, on l'a. Sauf que c'est pas une simple chanson, c'est une poésie bien rythmée. Je vais peut-être essayer cette chose.
Merci beaucoup, M. Solar.
Merci, c'était super.
Europe 1. Retour en studio, et dans un instant, direction les librairies. On les ouvre exceptionnellement pour La Voix est libre. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Et il est l'heure de flâner, virtuellement bien sûr, dans les librairies. Elles ne rouvrent que demain. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure à Paris et Jérémy Banel, librairie Lamartine, Paris aussi. Salut les libraires.
Salut Nicolas.
On commence avec vous Christophe, et vous vous êtes fait plaisir avec le titre de votre roman de la semaine, Un endroit où aller.
Un endroit où aller, voilà, c'est en fait la promesse que chaque livre nous offre, mais surtout
et chaque déconfinement.
Mais alors, avant de vous parler du livre, je voudrais parler de son auteur. Son auteur, c'est Robert Penn Warren, un auteur américain, et qui fait partie de cette génération dorée d'auteurs américains. C'est la génération de Dos Passos, Faulkner, Hemingway, Steinbeck. Mm-hmm. Mais alors, de manière un peu mystérieuse, il est à peu près inconnu ou vraiment très méconnu en France. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un auteur voilà, de ce niveau-là. Et pourtant, plusieurs éditeurs récemment, enfin il y a quelques un ou deux ans, les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture avaient réédité ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre Tous les hommes du roi. Il existe aussi en collection Point, dans la collection Signature, La Grande Forêt, qui est un roman mythique pour les fans de Penn Warren. Mais donc celui dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Un endroit où aller, et il est donc dans la collection Babel, la collection de poche des éditions Actes Sud. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce livre ? Il raconte un destin, hein, c'est un livre de 600 pages, un roman copieux. Un destin, et le destin de Jed Tewksbury, son narrateur. Alors, Jed Tewksbury, au moment où le roman démarre, et c'est la scène fondatrice, il a 9 ans, il habite dans une petite ville de l'Alabama, et son père vient de mourir. Son père, c'est un ivrogne, invétéré, coureur, et il vient de mourir dans des circonstances à la fois bouffonnes et triviales. Mmh. Et à la suite de ce décès, sa mère n'a qu'une envie, c'est que le petit Jed quitte ce bled paumé des États-Unis, du sud des États-Unis, pour aller vivre sa vie et trouver un endroit où aller. Voilà, donc on va suivre le destin de Jed, qui va devenir professeur de littérature. Il y a des pages magnifiques sur Dante et Shakespeare. Et puis il y a des histoires d'amour compliquées, passionnées, dans tous les sens du terme. La passion, elle est à la fois amoureuse et la passion dans le sens de la souffrance. Mmh. Et avec de magnifiques portraits de femmes, notamment une des femmes qui vont accompagner sa vie, qui s'appelle Rosel Hardcastle. Voilà, c'est à la fois très romanesque, il se passe plein de choses, un mélange de KPDP, tragédie grecque, et puis surtout aussi des questions essentielles sur la vie, la mort, qui suis-je, la perte de l'innocence. Ce qui souvent peut donner des résultats, parfois ridicules ou parfois sublimes. Là, on est clairement dans le sublime.
C'est l'itinéraire d'une vie, si je comprends bien.
Voilà, c'est un homme qui, à l'aube de sa vieillesse, se penche sur son passé.
Un endroit.
Et nous le raconte.
Où aller ? Alors vous, Jérémy Banel, vous vous êtes fait plaisir aussi, vous avez raison, c'est sujet libre en ce moment. Vous avez fouillé dans votre bibliothèque et vous avez sorti Le Royaume d'Emmanuel Carrère. Immense succès, vous nous rappelez l'idée et vous nous dites pourquoi vous l'avez choisi ?
Alors je vous rappelle l'idée, je l'ai choisi parce qu'on commence à être loin de nos nouveautés, donc forcément, effectivement, on farfouille dans les bibliothèques. À côté du Royaume, j'avais un autre livre d'Emmanuel Carrère qui s'appelle « Il est avantageux d'avoir où aller ». Donc finalement, on reste dans l'idée du livre précédent. Alors, le sujet du Royaume, c'est Emmanuel Carrère qui se met en scène, comme souvent dans ses livres, ses lecteurs le savent. Il met en scène un itinéraire un petit peu intellectuel qui est le sien autour de la question de la religion tout d'abord. Et puis il se rappelle, en commençant ce travail-là, que lui-même a eu une période qui a duré 3 ans, où il dit « voilà, j'ai été chrétien pendant 3 ans, je ne le suis plus », il le présente un peu comme une surprise dans son parcours, et en revenant sur ces deux événements, en fait, il relit les évangiles, à la lumière de ce qu'il a pensé, et à la lumière aussi de l'intellectuel et du romancier qu'il est, parce que c'est ça qui est important, c'est le romancier qui parle. Il relit tout ça. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à ce livre de Daniel Mendelsohn qui s'appelait Une Odyssée, qui était sorti il y a 2-3 ans chez Flammarion, où Daniel Mendelsohn aussi relit à la lumière de ce qu'il sait, l'Odyssée d'Homère. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'Emmanuel Carrère s'interroge beaucoup, nous fait rentrer dans la fabrication des textes, dans ce qu'on sait. Et puis, quand on ne sait plus, quand il n'y a plus de pistes concrètes d'histoire ou de religion, le romancier prend le pas. Et Emmanuel Carrère dit, ben là, je ne sais pas, mais moi, il me plaît d'imaginer ça, ou j'imagine qu'au moment où il a fallu écrire entre deux versions différentes, celle-ci est plus romanesque et plus intéressante. Et c'est cette espèce de jeu, en fait, entre des textes sacrés, qu'on y croit ou pas, ce n'est pas du tout la question, entre ces textes-là qu'on connaît ou qu'on croit connaître depuis 2000 ans, et ce qu'un romancier de notre époque peut en dire, et avec ce regard d'Emmanuel Carrère sur notre société, sur la littérature, sur lui-même et sur les tréfonds de l'âme, parce que Dieu sait s'il en parle bien. Et c'est tout ce mélange qui fait un livre fascinant, qui est un véritable voyage, et puis un très beau livre aussi sur la littérature et le pouvoir des histoires que l'on invente, ou la façon dont on raconte ces histoires, selon qu'elles soient arrivées ou pas.
Un livre épais, exigeant et qui a eu un énorme succès, ça fait vraiment plaisir. C'est un livre effectivement magnifique, Le Royaume donc d'Emmanuel Carrère. Et puis je rappelle donc pour Christophe Daniel, Un endroit où aller de Robert Penn Warren. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci,
au revoir.
Dans un instant, Rayon Jeunesse, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolande. A tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez non pas une histoire, mais une fabrique à histoire, carrément. Ça veut dire quoi ?
Alors laissez-moi vous présenter l'UNI, une entreprise française extrêmement innovante qui a mis sur pied il y a 4 ans la première boîte à histoire audio pour les enfants de 3 à 8 ans. Cette fabrique, cette boîte à histoire, ça ressemble à un petit boîtier au look de transistor vintage qui permet donc à l'enfant d'écouter ses histoires tout seul. C'est très facile, très intuitif. Mais là, Nicolas, vous allez me dire, d'accord, mais comment ça marche ?
Eh oui, comment ça marche ?
Oui, alors c'est très simple. Et pour vous présenter cette boîte à histoire, j'ai le privilège d'avoir une assistante aujourd'hui qui s'appelle...
Clémentine.
Clémentine, tu as quel âge ?
5 ans.
Est-ce que Clémentine, tu peux me montrer comment marche cette boîte à histoire ?
Alors là, je l'allume et on va voir toutes les histoires qu'il y a.
Les histoires de Suzanne et Gaston. Mickey et compagnie partent à l'aventure.
Non.
Les blagues de récré.
Non.
Le parc pirate.
Ça, c'est l'histoire que tu veux ?
Ouais.
Et alors, vas-y, qu'est-ce qu'on doit faire, là ?
Là, on doit appuyer ici, sur OK.
Qui sera le héros de ton histoire ?
Là, je dois choisir
Craddock.
Un personnage.
Qui ton héros va-t-il rencontrer ?
Un
monstre à trois têtes.
Oh, c'est pas mal, ça.
Oh, oui.
Enfin, choisis un objet.
Ça va être marrant, l'objet que je vais choisir.
Des sardines en boîte.
Oui.
Alfrida va passer quelques jours chez sa grand-mère pirate. Ses parents ont insisté pour qu'elle lui rende visite.
Quand vous achetez ce petit boîtier, il y a 48 histoires à l'intérieur déjà téléchargées et le principe, c'est qu'il y a des centaines d'autres contes que vous pouvez acheter sur la plateforme de l'UNI pour ensuite les télécharger directement dans la boîte.
Et là, je suis obligé de demander combien ça coûte.
Alors, l'objet coûte 59,90€ avec les 48 histoires à l'intérieur. On peut être un peu effrayé par le prix et c'est tout à fait normal. Mais croyez-moi, ça vous évitera bien des disputes avec votre enfant quand il vous demandera s'il peut regarder un énième dessin animé. Parce que ce qu'il y a de génial dans la boîte à histoires, c'est qu'il n'y a pas d'écran, juste une molette et quelques boutons pour sélectionner les histoires et c'est tout. Et mon assistante, qui se trouve être ma petite fille, mais chut, c'est un secret, adore sa boîte à histoires.
J'aime bien quand je dois tourner la petite manette là et quand je dois appuyer sur les boutons et choisir les personnages.
C'est toi qui choisis tout.
Ouais.
Tu l'emportes où et où est-ce que t'aimes bien écouter ta boîte à histoire, par exemple ?
Bah, parfois, je l'écoute dans les lits de papa et maman, dans les trajets de voiture.
Ça t'aime bien ?
Ouais.
Et cette boîte à histoire, vous pouvez donc la commander directement sur le site de luni.fr et télécharger des dizaines d'autres histoires. Merci beaucoup, Victor.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission Confiné-Déconfiné. Me reste à remercier Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, Xavier Joly pour la programmation musicale, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée qui jongle avec les lignes et les connexions dans tous les sens. Merci beaucoup à lui. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.